La cocotte qui chuchote. Une série sonore qui raconte une aventure humaine et culinaire en itinérance dans le parc naturel régional des Grands Causses.
Et on garde vraiment que la partie très onctueuse du yaourt pour le dessert.
Embarquez avec nous pour explorer les souvenirs du goût, les madeleines de Proust, les recettes sorties des cahiers usés par le temps et remises au goût du jour.
Il y a une broche qui sera fixée ici et qui permettra, voilà, qui tournera pour faire cuire la viande.
Suivez derrière nos micros les équipes et les bénévoles de 5 tiers-lieux du parc des Grands Causses, réunis sous la houlette du chef Michel Brasse.
On ramasse des nombrils de Vénus, c'est des petites plantes qui poussent sur les enrochements, les petites constructions, les petites rocailles.
Cette série a été réalisée par Radio Cisba, Radio Larzac et Radio Centrafrique, en partenariat avec le parc naturel régional des Grands Causses. Épisode 1, la tour sur Sorgue.
Je veux pas. Moi je trouve que ça c'est trop pratique.
Oui, c'est pratique ça. Ou c'est ça.
Mais tu veux essayer avec ça.
C'est le début du projet La Cocotte qui chuchote au château de la Tour sur Sorgue le 15 mars 2024.
Tu vois, c'est plus facile.
Dès le matin, les bénévoles s'affairent en cuisine pour préparer le banquet du soir auquel une soixantaine de personnes sont invitées.
Tiens, tu mets une quantité de sucre ou pas?
Je suis au pif.
Au pif?
Ah, ça on aime.
Ça.
Pas.
Alors, on va peut-être...
Le chef Michel Brasse a imaginé les recettes et donné des indications à la brigade des cuisinières et cuisiniers qu'il rejoindra dans l'après-midi. Mais quelle est l'histoire de ce château qui se transforme aujourd'hui en tiers-lieu? Guillemette Sobi est coordinatrice des activités de l'Association des Amis du Château de la Tour.
Ça a débuté en 2021 suite au Covid, où on a vu notre territoire où il y a beaucoup de choses qui ont fermé, les gens se sont un peu repliés sur eux-mêmes. Et on a entendu parler d'un tiers-lieu qui est le tiers-lieu des Rives qui se créait. Donc on allait voir un peu ce que c'était. De là, on a trouvé que c'était une dynamique super intéressante. Du coup, on a lancé notre propre projet, notre propre réflexion avec les habitants, les associations, les entreprises. On a diffusé sur le territoire un questionnaire, on a fait des réunions pour élaborer un projet. Et de là, on est différents axes de travail pour créer le projet de tiers-lieu. Et après, de là, on est différentes actions. Et de ces actions, des travaux dans le château, aménagement de nouvelles salles pour des associations, création d'un espace de coworking, création d'un espace d'accueil qui fait bar associatif, médiathèque relais. On accueille aussi le relais petite enfance intercommunal. Il y avait tout un volet parentalité, enfance, jeunesse, sur lequel on n'allait pas trop avant cette réflexion qu'on a eue. Et là, ça fait quelques années où on se développe un peu aussi sur ce volet-là. Et après, pas mal de choses autour des services, création d'une épicerie de produits locaux qui est en train de se développer, des moments conviviaux, plein de choses qui arrivent petit à petit, qui se rajoutent d'année en année sur ce projet de tiers-lieu.
Est-ce que peut-être aller chercher d'autres bols si ça rentre?
Ouais, d'accord.
Tout comme 4 autres tiers-lieux du sud d'Aveyron, le château de la Tour-sur-Sorgue a été accompagné par le parc naturel régional des Grands Causses dans la mise en place d'un projet de tiers-lieu. La cocotte qui chuchote fait partie de ce parcours d'accompagnement.
La cocotte qui chuchote, c'est un projet qui réunit plusieurs tiers-lieux du sud d'Aveyron.
Roxane Willem-Jam, chargée de mission attractivité et développement sociétal au parc naturel régional des Grands Causses.
On a expérimenté pour créer du réseau, se tenir au courant de l'évolution de chacun de ces lieux. Mais initialement, en fait, on s'intéressait à la structuration des lieux et à leur émergence. Parce que ces tiers-lieux sont des lieux qui sont côtoyés par plein de gens différents, qui sont très intéressants parce qu'ils sont source de vitalité pour les villages, et surtout les villages un peu éloignés des pôles urbains. Et la cocotte, c'est le trait d'union en fait entre les lieux et à la fois aussi entre tous les usagers de ces lieux, puisque quoi de mieux pour nous réunir que la cuisine. Donc c'est de ça dont il est question, de cuisiner dans les tiers-lieux. Moi, j'avais une idée préalable avant de démarrer ce projet, de me lancer là-dedans. Mais c'est vraiment avec les tiers-lieux qu'on souhaitait se réunir, sous l'égide du parc, pour le coup, qu'on a co-construit ce projet. Au début, on est parti sur une idée de cuisine et d'atelier de cuisine. Et via un élu du territoire qui connaissait Michel Brass, on s'est aventuré avec un chef étoilé. Donc ça, c'est une grande chance pour nous d'avoir ce parrainage, cet accompagnement par Michel. Et petit à petit, le projet s'est structuré. Et selon la façon de travailler Michel Brass, qui est très proche de la nature, c'est une cuisine qui prend son temps, qui se découvre, qui se savoure, qui est tout l'inverse du fast-food et de la malbouffe, on peut dire ça clairement. Du coup, c'est une cocotte qui chuchote, qui prend le temps, qui se mitonne.
Faites ça bien, s'il vous plaît.
Il en faut 10 comme ça.
Les bénévoles venus participer au chuchotement de la cocotte apprécient dans ce projet le côté fédérateur de la cuisine et sont aussi curieux et curieuses de pouvoir travailler avec un chef étoilé et connu comme Michel Brass.
C'est inédit dans la région d'avoir un grand cuisinier qui vient dans notre ruralité, faire un petit projet de ce type-là. Alors en ce moment, je dois repasser les nappes pour la mise de table. De très belles nappes anciennes que nos grands-mères ont prêtées.
Et il faut les repasser.
Et les repasser un petit coup.
Et tu le fais sur la table.
Oui, oui. En allant doucement, c'est du plastique.
Ben déjà, c'est un projet qui rassemble autour de quelqu'un qui, quand même, est connu pour sa cuisine. Je trouve que c'est fédérateur, parce que je trouve que c'est une démarche intéressante, parce que ça permet aussi de voir tout ce qu'on peut faire avec les produits le plus proche possible. Et puis, c'est une aventure, quelque part.
Il faut surtout que ça soit bien, bien joli. Quoi, voilà.
Moi, ça m'a donné envie car j'étais dans la cuisine avant. Et bon, on pourra rencontrer Michel Brass tout à l'heure qui va venir. Voilà.
Faire de la cuisine, vous aimez bien ?
Non, j'aime mieux la faire ici quand on est tous ensemble que chez moi. Je suis né dans un château. Quand je reviens sur ma maison. Là, la table était là. Papa était au bout de la table. Et on était tous ensemble.
Et puis c'est une approche qui était intéressante aussi. La cuisine, ça doit être du partage, sinon ça n'a pas tellement d'intérêt, on va dire. De partager, t'as une partie expérimentation qui était très intéressante sur les recettes, en fait. Aussi. De tester, de voir, d'améliorer, de corriger certains trucs, certaines saveurs. Donc ce côté expérimental est assez intéressant dans ce projet-là, en tout cas.
On le fait sur tous les plats. Hein.
Tu veux que je te touille pendant que tu...
Comme avec,
c'est possible.
Tu mets deux cuillères bien pleines.
Ce qui est fédérateur aussi, c'est le fait que les recettes choisies sont à base de produits locaux qu'on peut facilement trouver ou cueillir près de chez soi. C'est un trait caractéristique de la cuisine de Michel Brass et c'est ce qui permet aux participantes et participants de reconnaître la culture locale dans les plats qu'elle et il prépare.
On est dans du local, il y a une recherche au niveau des fleurs, au niveau des herbes. Puis voilà, je crois que c'est surtout faire connaître un petit peu l'inconnu à des personnes qui peut-être ont une vue traditionnelle de la cuisine.
Nous, ici, l'objectif, c'est de faire vivre notre territoire. Et pour faire vivre notre territoire, il faut mettre en avant toutes les personnes qui y sont. Donc, les produits locaux, dans le repas, c'est obligatoire. C'est parce qu'on va mettre en avant le fromage qui vient de la Cavalerie, les lentilles qui viennent de Saint-Eulaie-du-Cernon, le lait qui vient de Saint-Rome-de-Berlière, la maraîchère de Sainte-Afrique et de Verzol. C'est normal de les mettre en avant parce que c'est eux qui font le territoire, qui font sa valeur. C'est de l'entraide en fait. On les fait vivre, ils nous font vivre. Ils nous permettent de rester ici, d'avoir une nourriture locale, d'être plus résilients. C'est un peu notre base, les produits locaux.
On épluche des pommes pour faire de la compotée, pour mettre, je ne me rappelle plus.
Un dessert.
Un dessert.
Alors, en quoi cette recette, elle représente le territoire, d'après vous?
Il y a la pomme qui est la pomme de Broquès, qui est des vergers de la vallée du Tarn. Puis t'as le principal, c'est la foisse, quoi.
La foisse, c'est Geneviève qui l'a fait.
Oui, mais la foisse, c'est Aveyronnais.
La foisse, c'est Aveyronnais. C'est un...
Nous, on a choisi la recette la plus locale qu'on avait. Deux fois, en tout cas.
Alors, le menu de ce soir en entrée, c'est un cahier qui a été fait donc, par les bénévoles de l'association avec par-dessus une salade sauvage qu'on allait cueillir avec les bénévoles, avec des croutons de la boulangère du village, avec des lentilles germées de la tombe de brebis et une vinaigrette à base de jus de viande. Après, le plat, c'est des gigots de brebis à la broche cuits dans la vieille cheminée du château et accompagnés de faillots que Geneviève a fait cuire là depuis maintenant plusieurs jours dans un fond de sauce. Ensuite, le dessert, ça va être une foisse revisitée qu'on a imbibée d'un sirop fenouil et citron. Et par-dessus, il va y avoir une crème, un mélange de crème pâtissière et crème fouettée. Et encore par-dessus, une compotée de pommes et une nougatine pour finir le dessert.
Voilà, regarde comme elle est belle.
Parmi les bénévoles les plus actives, il y a Geneviève. Au moment de l'interview, elle est en pleine préparation de la crème pour le dessert.
Ah ben moi, j'ai toujours cuisiné, ma pauvre, c'est un truc de fou ça. J'ai été élevée par une grand-mère qui cuisinait très bien, avec des produits, surtout des produits locaux. En fait, ça fait partie de moi la cuisine. Après, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très gourmande. Et alors, comme dit Michel, il faut qu'il y ait beaucoup de crème parce que les gens, ils aiment beaucoup la crème. Et c'est vrai, dans un dessert, ça fait partie de la douceur que tu apportes. Tu vois, ça parle à tout le monde, la cuisine. Regarde, il y a des dames là qui viennent de Verzol, des villages à côté. C'est, je trouve ça génial. On a participé à la cueillette avec plein de dames qui ne viennent pas forcément. Et quand on cuisine soi-même, on a toujours l'intention. On le fait pour quelqu'un, on le fait... C'est une façon de donner qui est merveilleuse, moi, je trouve. Même dans la simplicité, hein, parce que moi, je ne cuisine pas tous les jours. Mais je cuisine tous les jours des produits que je trouve tout près de chez moi et simples. Hein, pas des choses très compliquées. Hein, si c'est des lentilles, c'est des lentilles. Si c'est des petits légumes sautés. Puis on aime bien utiliser aussi la grande cheminée du château pour pouvoir cuisiner. On change d'époque, là, on remonte le temps parce qu'on se retrouve... dans les siècles précédents, surtout au XVe siècle, dans ce cheminée, et de voir tourner des gigots dans un endroit comme ça, c'est très beau. Très beau et ça va être très bon.
Donc là, voilà, je prépare le feu, j'étends les cendres et les braises pour étendre le plus possible. Il y a une broche qui sera fixée ici et qui permettra, voilà, qui tournera pour faire cuire la viande. Pendant 5 heures, ouais.
Ça, ce qu'il faut, c'est bien chauffer les deux plaques. Tu vas chauffer ta plaque là, ta plaque là, que ça irradie de chaleur et que ça fasse cuire comme ça. C'est ça qu'après ton feu, tu l'étends et tu l'alimentes en permanence.
C'est du verre salé. Du verre salé que tu mets dans cette espèce d'entonnoir qu'on appelle un flambadou, qui a été rougi, même pour bien faire, il faut qu'il soit blanc. Tu mets ton lard dedans qui s'enflamme et ça coule, ça fait des pointes de feu sur ta pièce de viande. Ça finit la cuisson et ça donne un petit goût supplémentaire.
Pendant ce temps, d'autres bénévoles font de la cueillette sauvage pour la salade composée.
On ramasse des nombrils de Vénus, c'est des petites plantes qui poussent sur les enrochements, les petites constructions, les petites rocailles. avec toutes les petites fleurs. On trouve partout, en fait. Et quand tu la regardes, c'est une petite plante qui ressemble à un nombril. Pour mettre avec les petites plantes sauvages, la petite salade composée, des fleurs qu'il a ramenées, le chef, plus d'autres fleurs qui ont été ramassées. Et on continue encore à en ramasser. Donc, on va découvrir plein de petites plantes sauvages qui se mangent et qu'on peut ramasser devant sa maison.
Et c'est déjà l'heure de commencer le dressage des assiettes.
Donc le fond de la fosse, c'est toujours, il faut bien qu'il soit...
En fait, on les frite, c'est pas gênant.
Ouais, tu peux
parce
les
que
friter.
Le jus, ça va la ramollir complet.
Ouais, il faut que le fond, il n'y a pas trop d'air, tu vois.
Ouais,
tu
ouais.
Les invités commencent à arriver au château.
Donc c'est les cocottes qui chuchotent.
C'est ça, l'événement s'appelle les cocottes qui chuchotent.
Tandis qu'en cuisine, c'est le rush.
Là, vous pouvez me débarrasser ces deux bols et les mettre là-bas.
À la fin de la journée, Bérénice, bénévole, exprime sa satisfaction.
Moi, j'ai passé un super moment, en tout cas. Bonne ambiance, comme d'hab. Franchement, c'était une bonne expérience aussi en organisation. Moi, j'avais jamais dressé des assiettes de façon minutieuse pour 60 personnes. Non, super bilan. On va voir si c'était bon. On le sait toujours pas si c'était bon.
Les invités confirme la bonne ambiance et la qualité des plats.
On est venu parce qu'on est un peu de la tour et puis on était intéressé par ce projet d'atelier de cuisine.
Pour découvrir le château
Parce que c'était une amie qui m'avait proposé de venir puisqu'elle avait vu l'information.
Alors ça vous a plu?
Oui, on s'est régalé, ouais, c'était très bon.
J'ai beaucoup adoré l'entrée, la salade était merveilleuse.
Ah oui, oui, excellent, c'était très bon, convivial je trouve. On ne connaît pas les voisins, mais ça va, ils sont sympas.
Très goûteux, l'entrée était originale. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger ça. Autant de parfums dans l'assiette, c'était très bien. Ouais.
Cette première étape de la cocotte qui chuchote au château de la Tour-sur-Sorgue a montré le pouvoir des tiers-lieux dans le maintien de liens sociaux en milieu rural autour d'une cuisine qui représente fortement le territoire. Autant d'ingrédients importants pour l'avenir de nos sociétés, comme l'affirme Roxane Willem-Jam.
Ce qui me fascine dans les tiers-lieux, mais aussi dans ce mode de travail coopératif, en fait, c'est comment tout le monde peut trouver sa place. On travaille de plus en plus, et je trouve que pour moi, c'est un peu l'avenir de notre société, sous un mode d'intelligence collective, où chacun, d'où il est, a ses savoir-faire, et peut apporter, par son geste, par ses idées, ou parfois simplement par sa présence bienveillante, quelque chose, un ingrédient, en fait, qui est tout à fait intéressant pour les tiers-lieux et pour le vivre ensemble.
Le voyage culinaire prend fin. Merci d'avoir mis les mains à la pâte avec nous. Retrouvez la série La Cocotte qui chuchote sur Radio Cisba, Radio Larzac et Radio Sainte-Afrique. Un projet réalisé en partenariat avec le Parc naturel régional des Grands Causses.